France Culture.
Pourquoi avez-vous peur? N'avez-vous pas encore la foi?
Bonjour, Jean-Luc Gadreau avec vous sur France Culture pour Solae, le rendez-vous protestant proposé par la Fédération protestante de France. Nous poursuivons ce matin et dimanche prochain encore avec ces entretiens réalisés au Festival des Arts de la Parole à Lourmarin, où Solae était partenaire. Ce matin, c'est la réalisatrice Stéphanie Pilonka qui venait présenter son film All Shot, un virage pour la vie, un émouvant documentaire à voir actuellement d'ailleurs sur la plateforme MyCanal, racontant un défi fou que s'est lancé le motard Axel Alétru, victime d'un accident qui le laisse handicapé. Retour à Lourmarin, à la terrasse de l'Hôtel du Moulin, en public, pour rencontrer Stéphanie Pilonka. Bonjour Stéphanie Pilonka.
Bonjour.
Vous êtes scénariste, réalisatrice, documentariste, et l'on peut dire aussi une témoin du courage humain dans tout ce que vous faites. Ça vous convient comme présentation?
C'est beaucoup d'honneur, mais ça va.
À travers vos films, vous donnez voix et visage à celles et ceux que l'on voit trop peu ou mal, des personnes souvent invisibilisées. Ce matin, nous parlons de votre cinéma, notamment de votre film All Shot, que vous présentez ici en projection ciné-débat. Un film bouleversant sur Axel Alétru, ancien champion de BMX, devenu paraplégique, qui mettra néanmoins en œuvre des projets sportifs incroyables, comme le Paris-Dakar, par exemple, ou ici, dans ce film, la course à moto à l'Enduropal du Touquet. Mais au fond, ce film parle bien plus que de course.
Oui, il parle de cette faculté qu'on a tous de nous relever dans des instants critiques qui auraient pu nous condamner, mais qui finalement sont des vecteurs d'accomplissement et de dépassement.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de suivre Axel?
Alors Axel, je l'avais filmé dans un film qui s'appelait Invincible été pour le cinéma.
Autour de
d'Olivier Goy, voilà, qui est une personne qui a la maladie de Charcot et qui se bagarre au quotidien pour donner du sens à une vie qui devient de plus en plus difficile à mener librement et qui se mobilise pour glaner des fonds. Et donc on avait tourné une séquence avec lui. Et innocemment, en le quittant, il y avait quelque chose de très digne, de très lumineux chez lui, et avec quelque chose avec beaucoup d'espoir. Et je lui avais dit, je ferai un film sur toi. Et puis, je me suis dit, mince, aussitôt que je le disais, je me suis dit, maintenant, dans quoi je m'embarque. Mais j'ai bien fait de me mobiliser, puisque très vite, on a pu trouver des producteurs et puis un diffuseur, en l'occurrence Canal+, qui a décidé de raconter l'histoire de cet homme qui a eu une vie avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'émotions, beaucoup de rêves de gloire, d'accomplissement, plein de mérites dans le sport, etc. Mais qui est un témoin de la possibilité de renaître après des blessures très invalidantes. Mmh. Voilà. Et qui a eu une forme de résurrection. Malgré un très grave accident et qui a décidé de réinventer sa vie malgré tout. Donc je voulais raconter ça parce que les parcours de vie sont intéressants, non pas pour être admirés, mais je pense pour donner des possibilités. Souvent, quand je rencontre des jeunes qui vivent la pénibilité, quand ils ont un adulte qui vit un parcours difficile, mais qui arrive à se relever, ce sont des parcours qui vous nourrissent et qui vous permettent d'envisager autre chose que rester genou à terre. Donc voilà, j'avais envie que ce soit non pas pour le côté exemplaire d'un parcours fantastique, mais le côté témoignage inspirant, témoignage salvateur aussi quelquefois, de pouvoir envisager les échecs autrement.
Dans ce film, on sent que le handicap n'est jamais montré en fait comme un obstacle spectaculaire, insurmontable, mais plutôt comme une condition de vie qui n'éteint ni le rêve ni la dignité. Ce mot-là revient souvent dans votre bouche quand vous parlez d'Axel.
Oui, la dignité. Moi, je filme souvent les porteurs de particularités, les vulnérables, les différents, enfin, ceux que notre société assigne à leurs différences. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très beau chez les êtres en difficulté, c'est la dignité, c'est cette volonté de choisir toujours le côté de la vie par égard et par intérêt pour les autres.
Rester debout
oui,
aussi.
De témoigner par son action et son engagement dans la vie, c'est quelque chose de très chouette et je crois que c'est participer vraiment au bien commun et au bon équilibre d'une société que de dire, voilà, moi j'ai ça, la maladie, je fume beaucoup la maladie aussi. De se dire, voilà, je suis impactée là dans mon corps, dans ma chair, je suis impactée dans ma vie, mais je décide de rester du côté de la vie et je trouve que la dignité, la grande élégance, la noblesse des êtres humains, c'est de pouvoir s'emparer de choses plus grandes qu'eux et de se sentir mandaté à témoigner dans le groupe. Mmh. Voilà, on le dit souvent, on dit cet ami a perdu quelqu'un ou cet ami est malade, mais ce qui me touche beaucoup chez lui, c'est la dimension qu'on peut donner aux choses qui seraient censées tarir nos sources, ouais, notre ouais, source vitale. Ouais, voilà. Ouais.
Vous êtes sur tous les fronts en tant que réalisatrice, parfois des séries, des documentaires, des films de fiction. Comment se joue le choix du genre? Pourquoi aborder ce sujet de cette façon? Je prends deux exemples autour de l'autisme avec une petite fille qui naît dans un foyer, pas d'autisme, de trisomie 21, pardon. Et là, c'est un film de fiction. Avec Harry Habitant. Et puis à côté, vous faites un documentaire sur Olivier Goy, Invincible été, où là, vous le suivez pendant un long moment.
C'est tout le paradoxe de la maladie. C'est que plus mon corps décline, plus je monte en spiritualité. Et quelque part, ma maladie me fait découvrir certes le handicap, le regard des autres, le regard sur soi, mais c'est une maladie très particulière. C'est un choc, et à partir de ce choc, rien ne sera meilleur. En fait, il faut que j'apprenne à vivre avec la mort qui arrive.
Alors moi j'aime à penser que les films viennent à nous. Je pense que l'existence c'est une seule et unique question de choix. Choisir c'est bien évidemment se priver, ouais. Mais les choix sont fondamentaux pour déterminer une ligne de conduite en tant qu'individu et puis aussi un parcours artistique et ce vers quoi vous vous sentez appelé. Nos métiers sont très durs. Alors il faut trouver des grâces à tout ça. Voilà. Il faut les faire égoïstement pour ressentir des émotions, puisque toutes nos vies sont gérées, menées, absorbées par nos émotions. On fait les choses parce qu'elles nous indignent, ou je pense à Aissel, ou indignez-vous, ou elles nous indignent, ou elles nous apportent du plaisir égoïstement,
en
du
tout
réconfort.
Cas, il y a réaction.
Voilà. Il y a une réaction. Voilà. Mmh. Moi, je choisis des films qui me questionnent, mais qui me font du bien, parce que s'indigner, c'est aussi se faire du bien, c'est se mobiliser, ou ressentir de l'empathie, ou vouloir défendre des causes. Donc, égoïstement, j'ai un baromètre qui est juste mon émotion. Il y a des grands réalisateurs de talent qui attendent des films. Moi, j'ai attendu longtemps. Après, c'est compliqué. Nos métiers sont des métiers de désir. Je ne sais pas pourquoi, soudainement, on a envie de tel réalisateur. Pourquoi soudainement on a envie de tel acteur alors que on est tous, je pense, à mobilisation, à talent égaux. Voilà, on a tous envie, on peut tous faire de beaux films, on peut tous faire de, en tant qu'interprète ou en tant que réalisateur. Mais après, c'est la vie qui décide et ça, malheureusement, ce sont des métiers tellement aléatoires.
Les sujets, vous les avez évoqués, plus concrètement autour de ces marginaux invisibles, des trajectoires particulières, il y a l'autisme, la trisomie, les invisibles, donc plus largement les parcours spirituels aussi.
Oui, oui absolument.
D'où vous vient cet engagement?
Je crois que j'ai compris assez jeune que l'existence était hélas beaucoup trop courte. Et j'ai toujours aimé le monde qu'on ne voyait pas. Alors c'est ce qu'on ne voit pas, mais c'est aussi ce pourquoi certains d'entre nous ont une vie intérieure plus riche. Voilà, j'ai toujours aimé le merveilleux des vies intérieures. Toute obédience, tout credo confondu, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, d'imaginer que les hommes peuvent s'emparer de force ou de puissance invisible, insaisissable, mais qui leur permettent d'avancer dans leur vie. Donc Les parcours spirituels me plaisent beaucoup, évidemment. J'ai filmé pour Arte des religieuses, des femmes qui vivaient le grand silence, isolées, exclues, enfin protégées tous, avec des choix de vivre de manière recluse. Ça me parlait beaucoup. Et puis, la singularité de gens qui sont appelés à avoir des destins un peu particuliers. On se dit, pourquoi, si jeune être impacté autant par la mort, par la maladie, par... Pourquoi ? Il y a des personnes qui portent comme ça des fardeaux, et je trouve que quand on porte un fardeau, même un fardeau lourd, il y a vraiment des choses qui nous sont racontées à travers ceux qui traversent les déserts et qui portent les fardeaux. Ils nous racontent des choses sur nous, sur notre regard, sur la place que notre société laisse à ceux qui portent le fardeau. Est-ce qu'on... On allège de manière symbolique le fardeau qui est porté par ceux qui souffrent dans la pénibilité. Quelle place notre société laisse à ceux qui sont en marge et qui ont un chemin de croix? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc ça m'intéresse beaucoup. Surtout, j'ai remarqué que ceux qui sont appelés à vivre, pas appelés, parce que j'aime pas cette idée qu'on est appelé à souffrir, pour moi c'est complètement faux. Ceux qui malheureusement vivent des parcours de pénibilité, de douleur, dans la littérature, dans les grands témoignages des hommes, dans les grands rendez-vous de vie, on sait que ce sont des phares. C'est vrai, hein, les grandes victimes, les grands martyrs, les grands malades, les personnes qui dans la souffrance, ces personnes-là sont des phares parce qu'elles nous montrent un chemin d'astreinte, un chemin de puits d'espoir aussi. Et très souvent, dans toutes les communautés, même dans toutes les familles, on désigne souvent celui qui a été touché, qui a connu la douleur, qui a connu la souffrance, et on le désigne souvent comme étant un repère exemplaire. Non pas dans quelque chose de gloriole, insupportable, hors d'orgueil, mais dans quelque chose qui nous apprend un peu plus de la vie.
Qui trace un chemin, d'une certaine façon.
Qui nous apprend à nous, qui, par capillarité, dans son environnement, dans son entourage immédiat, transmet aux autres et permet aux autres de tenir davantage debout. Alors que lui, il est un peu bancal, mais c'est ça qui est pas mal.
Vous vous intéressez à ces personnes, à ces itinéraires de vie, mais vous-même, en tant que réalisatrice, avec la caméra en main, en train de diriger un film, est-ce qu'il y a pour vous une dimension éthique et même, j'ose dire, spirituelle, dans le geste de filmer ces personnes-là?
Ah mais complètement. Aussitôt qu'on prend en photo quelqu'un, qu'on capture, qu'on emprisonne, qu'on capte la voix de quelqu'un, le parcours de vie de quelqu'un, le visage de quelqu'un, on a une responsabilité.
Oui, tout à fait.
Parce qu'on va absorber pour redonner à un nombre plus important. Donc on a le choix. Quand on a une tribune qui nous est offerte, comme vous là, ou quand on écrit un papier sur quelqu'un, on a le choix. Il y a deux, j'aime bien citer Christiane Singer qui dit toujours qu'il faut choisir la vie quoi qu'il arrive. On a le choix où on va montrer une part d'ombre. C'est très intéressant de montrer l'ombre des êtres parce que ça nous permet de voilà, c'est très intéressant. Mais on a une mission et on a une responsabilité sociale dans ce qu'on va raconter. Moi souvent je me dis, même quand on me propose un polar par exemple, parce qu'il faut pouvoir faire nos métiers, j'aime les faire, je me dis tiens, si je fais ce polar, qu'est-ce que je vais apporter au bien commun? Dans tout ça, il faut que j'apporte quelque chose. Alors j'essaie de mettre de la différence à des personnes porteuses de particularités, ou voilà, des parcours méritants, ou des problématiques qui nous interrogent. Et je pense qu'aussitôt qu'on fait des images, on a socialement, on a un pacte secret avec la société, où voilà, on peut diffuser quelque chose qui va nous faire tous régresser, ou qui va être super anxiogène et qui va rien apporter, ou quelque chose qui va apporter du réconfort, du soin, du care, vraiment, et c'est tellement important, voilà, au sens profond, qui va non pas nous élever, nous faire progresser, mais qui va apporter quelque chose de doux, quelque chose d'agréable, et quelque chose qui a pour vocation de pacifier des cœurs, voilà. Je pourrais pas raconter une histoire qui ne nous parlera que de nos divisions. Oui. Aussitôt qu'on est deux, il y a division. Oui, c'est ça, hein,
c'est
on est sur terre. Il y a deux personnes, il y aura de la contradiction. Il y aura de l'opposition, il y aura des antagonismes, il y aura quelque chose de frontal, et c'est comme ça, l'être humain, il est comme ça.
Ça fait partie de l'existence, ouais.
Donc, je veux bien filmer le frontal de deux êtres, mais ce qui va m'intéresser, moi, c'est de filmer comment ils vont faire pour s'en sortir de tout ça. Ouais. Et pour ne faire qu'un malgré tout, puisqu'on a vocation à l'unité. On n'est jamais aussi fort que lorsqu'on est ensemble. Donc c'est ça que je veux raconter.
Dans All Shot, il y a d'ailleurs des moments où Axel se retrouve confronté, par exemple, au choix d'une marque de moto qui n'est pas en accord avec le désir d'Axel. Et il y a quelque chose d'un peu conflictuel, là. Mais même à l'intérieur de la famille, des choix qui ne sont pas toujours compris, ça fait partie de la vie. Et puis, il y a la compagne d'Axel qui est là, qui ne dit pas grand-chose, mais qui... Alors, absolument magnifique dans ce film. C'est tout ça, c'est ça la vie.
Filmer les antagonismes et les divisions, il faut le faire. Mais moi, j'aime raconter qu'après la division, il y a l'unité. En tous les cas, même si on n'y arrive pas, il y a une volonté de paix. Et c'est important dans tous les conflits qu'on peut filmer, comme documentariste, un équipementier qui décide qui de bloque. Ne plus être là, des parents qui ne veulent pas soutenir, des amis qui jugent, des gens qui se désolidarisent, c'est ça que je filme dans ce film-là. Mais j'aime à montrer qu'il y a un après. Alors l'après, c'est qu'il peut se relever seul, il y a le pardon, il y a la réconciliation, et c'est ça, moi, je pense qu'en tant que réalisateur, quand on nous donne la tribune de nous réaliser, on a le devoir de montrer ça.
Est-ce que vous vous considérez comme une passeuse, d'une certaine façon, une médiatrice entre des mondes qui ne se rencontrent pas toujours ?
Si j'arrive à faire ça, j'aurai réussi quelque chose. Il y a quelques films où je sais que j'ai été du côté de la vie fort quand les gens me disent « mon enfant est né avec tel handicap ». Mais j'avais vu un de vos films qui parlait de ça, des naissances avec des enfants qui ne sont pas conformes à ce qu'on espérait, parce qu'on veut toujours que l'enfant soit parfait. Et je me suis dit, si elle l'a filmé, parce que j'essaie de faire des fictions qui sont inspirées du réel, beaucoup de témoignages de vrais gens, et les témoignages de gens qui ont vu des films parce qu'ils sont impactés par la maladie et qui ont vu des parcours que j'ai filmés, qui me disent « ouais, ça m'a fait du bien », je me suis dit « s'ils l'ont fait, ben, je vais le faire, je peux le faire, c'est possible ». Ça a été fait une fois, donc c'est possible. Ça me fait beaucoup... Enfin, c'est une grande satisfaction.
Tu m'entends ? C'est moi, c'est papa.
Tellement belle.
Elle a pas un truc aux yeux, là. Votre fille est porteuse de trisomie 21.
Je comprends pas qu'ils aient rien vu.
C'est la vie, c'est comme ça, ça arrive. Maintenant, on doit faire face. Ensemble.
L'enfant handicapé, c'est un cadeau du ciel, n'importe quoi.
Bonjour.
T'as honte de ta propre fille ? C'est ça que tu penses ?
Ouais, t'es avec ça.
Mets-toi à sa place. Lui, s'imagine une petite fille parfaite.
On est comment ?
Instinct ! Même pas fichu d'être là pour l'anniversaire de sa fille.
Ah non, mais là, c'est pour les pieds.
D'accord, non, mais...
La vie, c'est aussi toi et Sarah. Et surtout toi et Sarah.
J'imagine pas le pouvoir des films. Un jour, j'ai fait un film sur le cancer du sein et j'ai filmé des Dragon Ladies. Alors, c'est des filles qui font de la pirogue, de la pirogue chinoise et qui pagaient pour se réapproprier leur corps, pour refaire de l'exercice et être ensemble. C'est pendant la maladie, après la maladie. Et on s'est rendu compte que l'effort, le sport et être ensemble, partager nos témoignages, qu'une femme isolée avec un cancer du sein versus une femme qui est dans le groupe, avec la force du groupe, la force du sport, du dépassement. Il y avait quelque chose où c'est reconnu, où les chances de guérison, de rémission étaient nettement plus supérieures. Donc j'ai fait un film sur ça et puis c'était un petit film de télé qui a eu un joli chemin. Et puis après la diffusion de ce film, je recevais beaucoup de messages de femmes en région qui me disaient « j'ai créé un équipage ». Et ce film, c'était il y a 3 ans et je me suis rendu compte qu'il y a maintenant des dizaines d'équipages en France qui ont été créés suite à ce film.
Oui, c'est...
Et je me dis, mais waouh ! C'est-à-dire qu'il y a des filles qui sont allées chercher des pirogues, qui ont trouvé des plans d'eau, qui ont trouvé des entraîneurs, qui ont créé des teams de filles en rose, parce que c'est des fonds tout ça, et qui toutes les semaines sont sur l'eau parce qu'elles ont vu à la télé que c'était possible, que ça arrive du Canada, qu'il y en a quelques-uns en France, qu'il y a un championnat du monde, mais surtout que c'était une façon de faire un pied de nez à la maladie et possiblement d'avoir plus de chances de survie. Et c'est tellement important. Donc ça, oui, les films ont des vies après et des missions. Et quand les missions ont du sens, bah, pour nous, c'est jubilatoire parce que vous accueillez ça dans un coin de votre cœur et vous vous dites, waouh, j'ai pas fait ça pour rien, quoi. Donc c'est chouette.
J'ai servi à quelque chose.
Oui, j'ai servi à quelque chose parce qu'on veut tous servir à quelque chose. Sûr. On n'est jamais aussi bien que quand on sait qu'on a filé un coup de main. Même nous, on se dit, waouh, j'ai aidé, j'ai fait ça, j'ai participé, voilà.
Alors directement en lien avec ce que vous dites là à l'instant, le festival interroge cette année la parole performative, terme pour parler de la mise en acte d'une parole prononcée, une parole qui devient action. Est-ce que votre caméra est une forme de parole mise en acte ? On
J'espère.
Peut le dire comme ça ?
Oui. Enfin,
moi, c'est le sentiment que j'ai aussi, c'est pour ça que je joue.
J'espère, parce que la parole, elle doit être mesurée, méditée, méditée. Donc moi, quand je tourne, surtout quand je suis en montage, j'essaie de méditer ça, de me dire, toute parole, en fait, aussitôt qu'elle est émise et qu'elle part dans l'espace de nos vies, elle a une résonance. Elle peut toucher, elle peut blesser, elle peut clouer au sol, comme elle peut donner des forces et me donner des ailes à des individus. Donc oui, je considère que c'est une forme de témoignage aussi, l'image, et c'est aussi la parole. En tous les cas, moi, j'aime pouvoir donner des messages, mais qui sont toujours sensiblement les mêmes. C'est remettre un germe là où on pensait que la terre était brûlée et qu'il ne se passerait plus rien. Mettre en image et en action une parole, probablement.
Au Ciné-Débat, vous expliquiez que pour vous, ce documentaire, comme tous vos documentaires, aussi se construit justement dans l'accompagnement des choses. Il y a plus ou moins une idée, un scénario vaguement imaginé, mais il s'écrit au fur et à mesure de ce qui se passe.
Ça, c'est ça qui est fabuleux dans le documentaire, c'est que... Alors, il anéantit toute volonté de posséder...
D'être le maître,
voilà, d'être un maître, ou d'être réalisateur, parce que c'est très pompeux comme appellation, terme. Comme terme. Donc, là, dans le documentaire, c'est la vie qui se joue de vous. Moi, je me souviens de filmer un documentaire sur la danse intégrée. Donc, la danse intégrée, ce sont des personnes valides qui dansent avec des personnes en situation de handicap. Et je devais filmer un mariage d'un garçon polyhandicapé, cérébro-lésé, etc. Et c'était un des moments forts de ce film. Et pendant le film, il s'est fait quitter. Et alors, je me disais, mais comment on va faire ? Et je devais annoncer ça à Arte, qui produisait le film. Et je me souviens d'avoir parlé à des gens qui étaient à l'époque beaucoup plus chevronnés que moi, et qui m'avaient dit, mais c'est ça le doc, c'est se laisser chahuter par la vie, se laisser secouer par l'existence, et c'est la vie qui décide ce que vous allez filmer. Donc il n'est
et
pas
on
rare.
L'accompagne.
Moi, je filme beaucoup des personnes qui sont à des moments de leur vie... un peu en difficulté. Donc il y a souvent des décès dans les films que je fais, dans les documentaires, mais c'est il faut accepter et vous êtes là, vous êtes un œil, vous absorbez. C'est pour ça que j'aime bien souvent la symbolique de l'œil pour désigner le documentaire. Parce que j'essaie d'être l'œil de tous ceux qui aimeraient voir, non pas par le trou de la serrure avec moi, mais qui aimeraient comprendre. Voilà.
Alors, c'est le nom du prix à Cannes, justement, qui décerne le meilleur documentaire présenté pendant le festival. Peut-être évoquer quelques projets sur lesquels vous travaillez et dont vous pouvez nous parler ?
J'ai tourné là depuis 2 ans sur une problématique qui m'était un peu étrangère, que je n'avais pas pour habitude de considérer, qui est les violences sexuelles faites aux enfants dans un cadre plutôt intrafamilial.
Le sujet compliqué,
c'était un documentaire que je ne voulais pas faire parce que je ne savais pas très bien comment prendre le truc. Et puis, dans nos vies de documentaristes, on sait qu'on ne peut pas se dérober à certains sujets. Et les violences sexuelles faites aux enfants, c'est un sujet en France qui fait très peur. On a beaucoup de mal à rendre justice, on a beaucoup de mal à protéger. On parle beaucoup de libérer la parole, alors la parole est libérée, mais la parole n'est pas entendue. La parole n'est pas notifiée, n'est pas traitée et il n'y a pas réparation après ces libérations de parole. C'est-à-dire que notre société n'est pas suffisamment appliquée parce que la justice, il y a des justices à plusieurs vitesses en France, il y a des priorités et malheureusement, l'enfance, comme les femmes, ne sont jamais la priorité des sociétés parce que les enfants ne votent pas, parce que les enfants parlent bas, parce que les enfants se taisent quand les adultes parlent. Donc je me suis dit, là, je ne dois pas me dérober à ça et je m'en suis emparée et j'ai tourné pendant 3 ans... Et le film va bientôt sortir sur Arte. Voilà, donc il y a des invitations dans la vie des réalisateurs. Et ça fait partie des projets que je suis assez fière d'avoir menés. Des projets qui vous impactent. Et notre mission à nous, c'est d'être témoin, c'est d'absorber une parole pour vous la montrer, pour vous la montrer pour qu'on arrive, nous, d'un point de vue, enfin, dans nos sociétés, à nous mobiliser vraiment. Donc voilà, j'ai été sensible à filmer l'enfance.
Question rituelle de fin d'entretien, ici, pour le temps du café. Si vous deviez offrir Stéphanie Pilonka un mot, une image, une phrase, alors soit tirée du film, All Shot, ou de votre cinéma tout entier, ou de votre expérience de réalisatrice, et venir la déposer dans la tasse de celles et ceux qui écoutent ce matin.
C'est le credo d'Axel Alétru, donc ce champion en situation de handicap qui relève tellement de défis pour nous montrer que tout est possible.
C'est le film All Shot.
Le film All Shot, il a...
Qui est visible d'ailleurs actuellement sur la plateforme Canal.
Tout à fait, sur MyCanal. Il dit que rien ne dure, rien ne reste, rien n'est figé dans la vie, tout est en mouvement, tout fuit, tout part. Et notre seule possibilité d'existence, c'est de s'adapter. Et je trouve que s'adapter, ça veut dire quelque part renoncer à des états pour aller vers d'autres états. Et qu'il est difficile pour l'être humain de renoncer à des états pour partir vers un autre état. Mais notre survie et notre équilibre et notre mission ne peut se faire que si on renonce à une ancienne peau pour aller vers une nouvelle peau et s'adapter. On ne peut plus aller en opposition au vent contraire. Il faut pouvoir absorber ces vents et adapter notre voile pour aller plus loin. Et voilà. Et dans le film d'Axel, s'adapter est, je pense, une clé. Et je comprenais pas très bien tout ça, mais de l'avoir suivi pendant ces six longs mois, on ne peut continuer la route que si on s'adapte. Et la route a des surprises, à condition qu'on veuille bien s'adapter.
Merci beaucoup Stéphanie Pilonka, et puis bonne adaptation donc dans les jours, les mois, les années qui viennent. À bientôt.
Merci beaucoup Jean-Luc, merci.
Et pour nous séparer, je vous propose une chanson en lien avec l'un des films de Stéphanie dont nous avons parlé, Invincible été, titre éponyme interprété par Christophe Hérault et Plume.
Comme une ode à la vie, à l'amour partagé, au soleil qui se couche sur mon corps enfermé.
Comme une ode à la nuit, vers laquelle je m'en vais, à vos regards qui me touchent quand je ne peux plus bouger.
Je quitterai la terre, je deviendrai lumière pour éclairer le monde et pour vous réchauffer.
Restera l'argentique, les photos, les années, les glaciers d'Antarctique, et le monde a changé.
Je serai millionnaire d'avoir été ce frère, d'avoir su...
C'était Solae, le rendez-vous protestant sur France Culture, proposé par la Fédération protestante de France, présenté par Jean-Luc Gadreau, réalisé à Paris par Thomas Jost, et avec Éric Perruchot-Triboulet à la prise de son. Cette émission est à réécouter cette semaine sur le site protestantaupluriel.org et à tout moment sur celui de France Culture ou en podcast au moyen de l'application Radio France. À la télévision ce matin sur France 2, de 10h à 10h30, un documentaire de Raphaël Canard, Jacques Ellul, Raison d'écrire. Et sur France Culture à suivre, Talmudique, présenté par Marc-Alain Wachnin, juste après vos informations de 9h. Bon dimanche à chacune et chacun.
C'est mon corps qui s'endort, qui s'enferme dehors, quand mon âme se libère, même si j'espère encore.
À bouffer chaque seconde, et bon Dieu qu'elle est belle, cette joie qui m'inonde, même si elle est cruelle.
C'est la vie qui s'invite à poursuivre sans moi, et qui s'en va trop vite.